Donc, qu'est-ce qui peuple les confluences, surtout si on part de cette première impression, ce qui nous a un peu sauté au visage, là, d'une urbanité complètement sous tension. Comment est-ce que, qu'est-ce qu'ils trouvent non seulement à habiter là, mais à s'y projeter avec cette espèce de configuration qui est éminemment problématique sur, donc, on voit à peu près tous les aspects de ce que pourrait être l'urbanité si on redéfinit tout. Ça va depuis techniquement c'est quoi l'habitat jusqu'à c'est quoi les politiques de la ville, voire qu'est-ce que c'est qu'une civilisation. On voit que c'est RP en permanence, sans compter les canards et la randonnée, c'est compliqué à faire. Et donc pour s'en sortir, on est parti, on a fait une conceptualisation sauvage, donc c'est le très intelligent à parler plutôt de figures plutôt que je ne sais pas quoi, de type d'habitat. Pourquoi ça nous a semblé très très intelligent? Parce que on va dire que ça maintient une espèce. Alors dans l'anthropologie, j'aime bien sortir ce terme. Donc c'est une hésitation sur le sens qu'on assume complètement. Une hésitation sur le sens. Il y a un aspect par exemple déjà de figure stylistique. Parce que donc on a dit notre matériau, c'est vraiment celui de donc, ce dont parlait Rémi, d'une langue de l'habité. Et donc, c'est quoi les figures de style qui arrivent à tenir ensemble une manière de se projeter dans la ville, de s'y situer comme point de vue. Et donc ça, on voit bien que c'est ça à voir avec, avec un motif qui est celui de la question d'une figure de style. D'une figure de style, mais aussi d'une refiguration du champ de l'expérience. C'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, des formes de subjectivité, c'est aussi toujours des modifications de ce champ-là. Et voire même, en fait, un espèce d'accro dans la trame, donc un accro dans le système de tension, et qui, voilà, qui permet de se mouvoir, ou en tout cas de faire le point à un moment sur qu'est-ce que ça veut dire d'habiter dans la ville en chantier, et donc sous l'angle de ces subjectivités en chantier. Donc je disais figure de style, ça tient aussi le fameux truc de la figure locale, la figure du quartier, plusieurs marrantes. Nous, on est arrivé à quelque chose de moins finalement moins amusant, mais il y avait quand même quelques perles là-dessus, comme considérer les dames qui sont très connues, qui ont plein de chiens, qui ont plein de relations à partir de ça, comme des espèces de traceurs de ce qu'on peut attraper au ras de ces espaces qui ne sont pas vraiment la rue, puisqu'il y a des jardins et compagnie, et donc elle fait des liens entre les animaux, le type des espaces verts qui se battent, les bouteilles qu'on laissait les fêtes perles la veille, enfin vraiment, on nous permet de poser des traceurs qui permettent d'un peu de cours de foyer. Mais bon, on a pris le parti de ne pas parler des choses les plus drôles dans cet exposé. Je ne me rappelle plus pourquoi. Donc, figure locale, figure de style, on le tenait. Et puis, vraiment, cette idée aussi, il y a un espèce d'échange entre une manière de se projeter dans la ville. C'est-à-dire, les figures, c'est des figures à la fois d'habitants, mais aussi dans l'habité. Quoi. C'est-à-dire qu'on devient une figure dans la mesure où on arrive à schématiquement commencer à s'orienter et à projeter quelque chose qui semble être la ville qui est autour de nous. Donc il y a aussi une espèce d'indécision. Donc voilà pourquoi c'était très malin de parler de figure, c'est autre chose. Mais comme il s'agit de mettre un peu de méthode à partir de la conceptualisation sauvage, donc on a essayé de se retrouver avec un espèce d'outillage un peu précis autour de cette notion. Donc qu'est-ce qu'on a en gros, c'est quoi la grammaire qu'on associe à cette notion de figure? À chaque fois, on va avoir la question d'une trajectoire ou d'une dynamique. Donc ça peut être comment on arrive là, ça peut être comment la ville bouge autour de nous si on a toujours été là. En tous les cas, il y a cet aspect de dynamique et de mobilité. Donc, chaque figure repérée va aussi impliquer un certain régime de lucidité, de discours, d'argumentation, une intelligence qui va permettre de définir ensuite les prises, ou pas d'ailleurs, sur le changement urbain et la ville en transformation. Donc là, on retombe sur la figure argumentative. Et puis, figure, parce que figure d'autorité. Figure d'autorité spécifique dont le poids impératif va provenir en gros de la puissance de projection et d'application d'une certaine modalité du vivre ensemble. À chaque fois, on va trouver ça. Et à partir de ce canevas, donc, je vais tuer le suspense tout de suite, on a trouvé trois positions bien repérables dans notre corpus là, et qui constituent pour nous ce qui semble être les êtres ou les modes d'existence les plus en prise, les plus adéquats avec cette idée de ville durable en chantier. Donc on a les habitants pionniers, qui sont les nouveaux habitants d'une ville en création, visiblement ceux qui ont pas mal croisé sur le premier volet un peu de confluence. Les habitants pionniers, nous ce qu'on a trouvé en plus, mais c'est peut-être du fait de s'être pas mal baladé au niveau de la cité Perrache, c'est les récalcitrants, plutôt du côté des anciens habitants qui sont en but à la rénovation, Donc des êtres qui, enfin plus largement, c'est les êtres qui vont être rétifs aux dynamiques de transformation urbaine à l'œuvre et qui, en résistant en fait, vont en retour fonctionner comme des espèces d'étroites, hein, d'opérateurs de réalité de cette transformation là. Et puis des êtres intermédiaires, des êtres de médiation entre la ville ancienne et la ville nouvelle. Donc cette tripartition là est assez classique. Par contre, si on va du côté des idées préconçues, par contre, on ne les avait pas spécialement identifiées à la base. Les gens qu'on s'attendait à croiser, on ne les a pas vraiment croisés. Et on a notamment deux figures manquantes, qui ne sont pas absentes, mais qui, on va dire, échappent au dispositif d'enquête, alors qu'elles étaient requises, on va dire, dans les termes du projet. Il va s'agir donc du... Puisqu'on nous parle de Smart City, c'est le Smart People. L'habitant, par définition, de la Smart City, et comme c'est une ville durable, on attendait l'éco-citoyen. Donc c'est des figures qui ne sont pas proprement absentes, mais qui vont bloquer la confluence sur un mode un peu spectral et un peu garantiste. C'est-à-dire qu'ils vont être là, ils ne sont pas là, ils sont là sur des modalités qu'on n'arrivera jamais vraiment à les croiser. Il y a une troisième figure qui est un peu sur ce mode spectral, le mode de garantisme, mais qui ne partage pas cette particularité d'être requis dans les termes du projet, mais finalement difficilement attrapable par l'enquête, et qui sont omniprésents dans le discours des habitants, mais qu'on ne peut jamais croiser parce qu'ils appartiennent à des dimensions et à des espaces-temps qui sont forcément l'autre de la cité, et ça, c'est les poltergeists. Les esprits frappeurs, qui sont très présents aux confluences, etc. Sous la figure de la prostituée, des fêtards, sous la figure des jeunes qui traînent en bas de l'immeuble alors qu'ils n'ont rien à faire là, etc. Et qui passent leur temps en plus à déranger, parce qu'ils sont censés être l'habitant. Voilà.
Précision, ils sont manquants parce qu'ils sont insaisissables par le chercheur, ou ils sont manquants parce que vous les attendiez et vous ne les avez pas trouvés?
Ils étaient insaisissables dans le faisceau d'instruments que nous on avait déployé. Bah, typiquement, le Smart People, il y a deux problèmes pour le Smart People, c'est qu'il est en permanence connecté et déplacé, donc quand on lui demande est-ce qu'il habite là, bah non. Enfin, là, dans les permètres du projet, ça ne marchait pas. Et surtout, il a besoin d'un très bon alignement des dispositifs. Et comme l'a raconté Rémi, ça coince, il y a de la panne en permanence. Donc il lui manque un peu les supports pour se déployer, à part au centre commercial des confluences, mais je pourrais revenir dessus si vous voulez plus tard. Où il a un peu un espace d'apparition. Mais ce monde d'écran et de projection, ça donne un peu consistance à quelque chose. Mais sinon, dès qu'on est du côté des ensembles d'habitat et compagnie, ben non, ça ne marche pas. Parce que, je ne sais pas comment dire, par exemple, les tablettes, on aurait pu dire que c'est quelque chose qui a commencé à le faire exister dans ces fameux appartements éco-rénovés de la cité Sainte-Blandine, sauf que 90% des personnes qu'on a rencontrées ne veulent pas s'en servir, l'ont rangé, ont autre chose avec, ou poliment essayent d'en faire quelque chose, mais ne voient pas trop l'intérêt, donc il fait défaut de ce point de vue. Et pour l'éco-citoyen, c'est un peu le même. L'éco-citoyen, c'est drôle parce que dans tout ce qui est documentation du projet, voilà, il faut éteindre les lumières, dépoussiérer les lampes, ouvrir les fenêtres mais pas trop. Et donc soit d'un côté c'est du trivial, et donc les gens qui arrivaient, y compris sur ce mode-là, en se disant on va pouvoir faire un geste pour l'environnement, ils sont un peu déçus. Soit il manque en fait les supports, les fétiches de l'éco-citoyenneté, comme le composteur, qui serait vraiment ce qu'il faut. De ce point de vue, ça marche pas trop. La flotte des véhicules électriques, c'est pas ça non plus. Déjà d'un collectif, oui, c'est plus compliqué que prévu. Hein. Donc lui aussi, il manque de support. Il manque de support. Ok, donc on va passer directement aux figures concrètes qu'on prise. Alors l'habitant pionnier, il naît de cette situation assez inouïe de la ville laboratoire. La ville en train de se faire, c'est un laboratoire pour les sociologues qui s'intéressent aux faits urbains, et évidemment. Ça l'est également, donc ces figures qui vont tenter de déployer leur attachement de proximité ou familiarité dans une ville qui est encore en train de se faire. Là. C'est-à-dire là où il n'y a pas d'habitude ce qu'on appelle une ville, c'est-à-dire une sédimentation au fil du temps. Et le plat est relativement absenté, on va dire, pour les confluences. Autre caractéristique, capacité critique et posture assez systématique de contre-expertise. ça c'est très notable. La ville prototype dysfonctionne, ce qui semble assez logique, c'est un prototype.
Mais par contre, ce qui est très frappant, c'est la capacité de ses habitants à proposer des analyses, des critiques, des systèmes d'explication pour ces dysfonctionnements. Donc, assez systématiquement, à la confluence, ces habitants pionniers vont arriver sur la base d'une espèce de curiosité préalable qui est informée par une vision globale de tiens, qu'est-ce qui se prépare là, un projet de grande ampleur, de ville durable. Souvent, il y a même quasiment une expérience de globe-trotteur, on est passé par d'autres. C'est pour ça, peut-être d'ailleurs, ça va nuancer la question de l'approche microsociale. Parce que microsocial, certes, mais en fait, l'expérience londonienne et l'expérience des confluences, les gens, ils le vivent dans la continuité d'un réseau mondial des métropoles. Donc, on nous parle de Sydney, Singapour. J'ai beaucoup aimé Singapour, donc je fais le confluence. Bon, mais donc, sur la base de cette espèce de trajectoire, ils arrivent dans une zone qui est complètement en chantier. Le point d'articulation centrale du quartier, qui est censé être le centre commercial, souvent, n'est même pas encore achevé au moment où ils achètent sur plan. Ils achètent sur plan, et donc évidemment, quand on achète sur plan, eh ben, on a effectivement une position privilégiée pour relever tous les dysfonctionnements par rapport au plan. On dit l'idéal, le plan, et la réalité. Ah, mais ça ne peut pas être là. Cette fenêtre devait fermer, cette VMC devait fonctionner. En plus, il y a quand même ce truc assez marqué, effectivement, d'une position sociale, on va dire, dominante. Nous, on n'était pas rentrés dans cette étude en cherchant à activer les catégories assez classiques de la sociologie, etc. Mais enfin, là, c'était quand même compliqué d'esquiver le fait qu'il y a des grosses possibilités financières, une capacité à mobiliser, à la mobilité, à faire le pari, à se situer dans le sens de l'histoire, par exemple en sachant que la mairie de Lyon sera derrière ce truc parce qu'ils connaissent des gens qui... Et à se situer dans les termes d'un projet d'excellence à tout point de vue. Donc ce qui... Ça renforce encore cette forme spécifique de lucidité de l'habitant pionnier. C'est non seulement sur plan, il voit l'écart avec ce qui a été fait effectivement, et puis il y a l'aspect, j'en ai pas eu pour mon argent. Et sans compter que leur critique va pouvoir s'appuyer sur une expertise et des savoirs majeurs qui est à même de contester la version des aménageurs. Parce qu'il y a une culture technique poussée, donc on a des chercheurs en physique, on a des architectes, on connaît les arcanes administratives ou politiques. J'ai travaillé longtemps dans le bâtiment à un poste haut gradé et compagnie, donc là il y a vraiment tout ce qu'il faut pour relever la... En tout cas, pour fabriquer des systèmes d'explication de pourquoi est-ce que la ville durable, ici, pour le moment, dysfonctionne. Et cette capacité critique, mais pas que, il y a aussi effectivement l'enchantement... Et l'enthousiasme d'explorer et d'inaugurer la ville en train de se faire, et les nouveaux bâtiments passifs, hop, ils passent leur temps à visiter les trucs qui sont en train de se monter et compagnie. Tout ça se trouve aussi à se partager au sein d'une communauté qui s'est constituée dès les premiers temps et qui se marquait, ça c'est repris a posteriori par les entretiens, mais bon, il faut imaginer donc dans les rues du quartier des défilés de parapluies, parce que les premiers clients avaient toujours des parapluies qui avaient été remis au moment des ventes sur plan. Et donc il y avait des processions de gens avec le même parapluie Lyon-Confluence qui pouvaient comme ça circuler dans le quartier et aller regarder la ville durable en construction. Et ça se poursuit aussi dans le déploiement d'une sociabilité au sein des immeubles des îlots, notamment on reviendra dessus, je reviendrai dessus sur la question de la copropriété. Donc il y a un esprit pionnier qui va vraiment prendre une espèce de consistance à travers une sociabilité pionnière. Et oui, donc pour terminer avec notre appareillage autour de l'habitant pionnier, il y a aussi la projection d'un monde et une modalité de vivre ensemble qui recourt à la fois une espèce d'utopie sociotechnique et un idéal civique. C'est en fonction de cet arrière-fond d'ailleurs qu'à nouveau on va déplorer les manquements en termes de développement durable, les tensions qui viennent mettre à mal un idéal de mixité sociale bien réglé. Et un certain nombre de ces habitants pionniers, enfin, on va dire comme figure, ils incarnent toujours un idéal de vie publique qui implique des charges, des responsabilités, des engagements. Donc ça peut être dans le conseil syndical, dans le comité d'information de CILS, comité d'intérêt local, où ils interviennent sur des questions urbanistiques, présenter des dispositifs d'accompagnement à l'éco-rénovation. En participant aussi à la MJC. La MJC des Confluences, c'est particulier, hein. C'est une musique classique, c'est une MJC. Ouais.
Voilà. C'est des militants de l'écologie. En fait, c'est les seuls militants de l'écologie, en tout cas que nous, on a repéré, ils sont dans la MJC. En fait. Ils agissent et ils essayent. C'est eux qui essayent de mettre en place les composteurs, les jardins partagés. En fait, ils prennent tous les supports manquants, ils les prennent à leur charge, ils essayent de les... C'est d'ailleurs, c'est des anges, enfin, dans la figure, c'est plutôt des anges de la médiation, la figure des médiateurs.
On les retrouvera à la fin. Mais entre-temps, donc, on passe des pionniers au récalcitrant. On n'est plus sur cette espèce de géographie triomphante et mobile des habitants pionniers, donc je dirais Singapour, Greenwich Village et Yonkulance, qui sont capables de parcourir les réseaux de l'urbanisme et de faire le saut pour s'y installer, etc. Le récalcitrant, ça va être davantage une figure qui peut se définir par la robustesse d'un ancrage. Et donc forcément, donc la question qu'on va trouver centrale, ça va être moins comment est-ce qu'on arrive, mais comment on s'inscrit et comment la ville bouge autour. Surtout que, oui, en général, c'est sur le mode du « on a toujours vécu ». Pour la cité Perrache, c'est une cité qui a été construite dans les années 30. Il y a certaines personnes qui connaissaient les résidents à l'époque où les responsables HLM vivaient dans les cités HLM. Ils connaissaient quelqu'un qui était arrivé dans ces années-là. Ils savaient ce qui avait été fabriqué. Il y a tout un aspect d'histoire locale qui est assez incroyable. C'est beaucoup de retraités de la SNCF ou de la Poste et compagnie. Donc avec une espèce d'érudition qui leur permet vraiment d'avoir une espèce de perception comme ça de l'histoire locale qui est assez décalée avec ce qu'on va retrouver dans les termes du projet, mais qui l'éclaire de manière assez folle. Et oui, je disais, donc les gens, leurs enfants sont nés là maintenant, leurs enfants ont 40 ans. Donc il y a vraiment ce côté, on a toujours vécu là, notre ancrage est là. Et c'est un ancrage qui va se constituer à travers tout ce qui a été réalisé en termes d'aménagement, ça reviendra peut-être dessus à la fin. Et aussi toutes les petites et grandes misères. La vie dans la cité, donc un mari malade, puis qui meurt, les enfants qui partent, quelqu'un qui devient handicapé, etc. Et ce qui est fou, c'est que cette manière de durer organiquement se trouve complètement en prise avec l'environnement familier. C'est pour ça que quelque chose qui nous a été dit tout de suite à propos de l'éco-rénovation, c'est que nous forcer à déménager, ça va nous tuer. Sachant que c'est pas strictement une immobilité, c'est vraiment plutôt comment est-ce qu'il y a un ajustement fin entre des reconfigurations biographiques et une espèce de micro-mobilité dans le quartier ou dans la cité. Donc je parlais du mari qui meurt ou des enfants qui partent, hop, on passe dans un appartement qui est un peu plus petit, il y a une maladie vraiment qui commence à s'aggraver, on descend au rez-de-chaussée pour pouvoir continuer. Donc c'est cet ordre-là, on n'est pas complètement sur de la publicité, mais il y a ce rapport vraiment Donc, posture critique de ces récalcitrants, à part donc, tout ce travail d'archivage et de documentation, et qui est complètement incroyable. Après qu'on nous a à moitié insultés, parce qu'au début les gens nous associaient au processus de négocier un peu sur ce sujet, c'est là qu'il y a des petites dames qui sortaient des boîtes à chaussures complètes, remplies de documents sur la rénovation de la cité de 1994. Et qu'est-ce que Raymond Barre avait dit à ce moment-là? Hop, partie de progrès découpé qui correspond. Enfin, le travail de documentation d'archivage et surtout la faculté à le mobiliser en direct, parce qu'on a trouvé des gens sur le pas de sa porte et complètement, moi ça m'a vraiment dérouté. Mais en plus donc de cet aspect, la dimension critique, elle va vraiment se fonder en permanence sur ce plan des usages, des accommodements personnels, et tous les petits riens qui permettent fondamentalement de tenir. Et avec cette tension. Le ressort en fait de la critique, ça va être ce truc très complètement insupportable entre une sorte de légitimité de fait. On est là avec toute notre histoire, toutes nos habitudes, toutes nos affaires, tout ce qu'on, en gros les gens ils ont fabriqué leur logement en fait, concrètement depuis.
Il y en a qui l'ont entièrement rénové, par exemple, à leurs frais, puisqu'il y avait des défaillances du bailleur depuis des années. Enfin, le bailleur a toujours été un peu défaillant, donc ils entreprennent les travaux par eux-mêmes. Quoi. Ce qui explique cette légitimité de fait.
Et par rapport à ce qu'on leur impose en droit, donc le fait de les déplacer d'un appartement à l'autre, même s'il n'y a pas de. Enfin, il y en a quelques-uns, bon, c'est pas simplement le problème d'être logé loin dans une autre cité HLM, mais le simple fait de passer d'un appartement à l'autre, ça suffit déjà à sembler une manière de se faire piétiner. Quoi. Et d'autant plus que il y a vraiment une espèce d'attachement aux réalités des êtres les plus fragiles et les plus vulnérables. Le motif de la fragilité, il est central, déjà parce qu'on a affaire le plus souvent à des personnes âgées, ou alors à des personnes moins âgées, mais qui nous expliquent d'emblée à quel point ils sont malades, à quel point ils sont handicapés. Mais là-dedans, il faut vraiment voir, déjà ça explique l'espèce d'hostilité un peu instinctive face au discours d'expertise qui déprenne encore plus, alors que déjà on tient parce qu'on a réussi à se ménager quelques prises, etc. Et donc cet aspect-là, il permet vraiment de suivre le plan des usages pratiques, des attachements concrets, etc. Souvent, c'est compliqué de fabriquer le dispositif d'enquête qui nous permettrait de l'attraper, mais dès qu'on est sur cette question de ce qu'on arrive à faire ou pas faire avec cette hanche artificielle, avec ce genou qui commence à grincer de plus en plus, là, d'un coup, tous les trucs arrivent à être décrits de manière assez systématique. Et il y a aussi l'idée, donc toujours sous cet angle de la critique, que l'acuité du regard des recalcitrants et leur contre-expertise, même disons-le clairement, ils ont une espèce d'attention très méchante et vindicative là, par rapport au projet d'éco-rénovation, ça trouve sa source dans cette espèce d'éthique de la fragilité, qui forcément implique de défendre la raison du plus faible dans l'histoire. Quoi. Et on se retrouve avec le. À la fin, moi, il y a une espèce d'équation assez curieuse comme ça, où on s'aperçoit que les subjectivités qui sont mises en jeu sont d'autant plus vulnérables qu'elles sont fortement emprises, et d'autant plus emprises ou attachées qu'elles sont fragiles et vulnérables. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, un des points décisifs dans ce qu'on a essayé d'appeler les récalcitrants. C'est vraiment le nœud autour de cet aspect-là. Voilà, et puis donc schématiquement, on avait quelque chose d'assez classique. Alors, les deux premières figures concrètes, il y en a une qui accompagne tout le processus des confluences, c'est l'habitant pionnier, une qui résiste, qui râle, c'est les récalcitrants. Et de manière encore extrêmement ingénieuse, on a trouvé donc la figure intermédiaire, qu'est-ce qui va faire le rapport, quoi, entre les manières de vivre ensemble. Et effectivement, elles se sont. On les a rencontrées, donc à chaque fois, c'est des figures qui nous. S'incarner depuis une professionnalité ou des supports institutionnels qui embarquent cette fonction éducatrice. Mais en même temps, au-delà de la fonction, ça va partir à chaque fois depuis une certaine présence quotidienne et depuis une forme d'habité spécifique. Donc des êtres en prise sur les choses de la cité, à travers des petites réparations, le fait d'être en prise sur les relations de voisinage, le fait d'assurer la maintenance aussi bien de la petite machinerie, de comment fonctionne l'étage dans une cité HLM, que justement de ces relations de voisinage. Et au travers des affaires de branchement, de réglages très pratiques, de est-ce que vous arrivez encore à voir la télévision maintenant qu'on a fait ces travaux chez vous, il s'agit de réveiller à chaque fois un environnement familier. Il y a un cas vraiment paradigmatique, parce qu'il y a certaines figures, leur propre, c'est de pouvoir tenir quasiment qu'un carnet. Et donc, pour la figure de l'ange de la médiation, il y a vraiment un des gardiens de la cité PRH. Il ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait d'un ange, c'est un espèce de biker tatoué, un bleu de travail en permanence. Ou alors c'est un ange à la Neil Gaiman, pour les gens qui connaissent un peu. Oui. En tout cas, ce qui est très vraiment notable, c'est la manière dont il incarne cette position d'un passeur entre des mondes. Déjà, il officie à la fois dans le secteur Sainte-Blandine, donc celui de l'éco-rénovation, etc., et à la fois dans les quartiers neufs des confluences. Même si dans les quartiers neufs, il dit à quel point il en est réduit à une pure fonction technicienne. Il fait le passage aussi parce qu'il a, visiblement, il a travaillé déjà pour des bailleurs sociaux dans des cités sensibles en région parisienne, des quartiers vraiment chauds. Ce qui lui permet de relativiser toutes les nuisances qu'il trouve en bas des tours ici, et puis d'assurer une coprésence qui est assez efficace, on va dire, avec la faune locale, de faire le lien entre le petit vieux qui se plaint du fait que. Qu'il entend des jeunes faire du scooter à 5h du matin, donc là il répond oui, mais voilà, là où j'étais, c'était avec ta voiture qui partait faire des tours. Et enfin, donc là, quand je dis passeur entre les mondes, ce qui est vraiment frappant, c'est que dans la cité, il habite dans la cité, au rez-de-chaussée d'un des immeubles, et il a transformé son salon, plus quelques autres aspects de son appartement, en portion du désert australien. Il a des aquariums avec des reptiles, il a des insectes. Et dans une atmosphère, en plus, il est modulé pour recréer le truc. C'est-à-dire que l'éco-rénovation, ça m'intéresse parce qu'il fait vraiment, l'entretien, il est vraiment 35 degrés à l'intérieur. Quoi, parce que,
Mais on sent que peut-être que dans cette possibilité de retrait au désert, là, il va trouver toute la source de sa patience et de sa présence compréhensive, notamment quand il faut se montrer serviable avec la dame du troisième étage qui, dit-il, est méchante comme un cafard. Il tient tout son truc. Donc l'accompagnement qu'il va proposer à la résidentialisation, ça se déploie donc depuis une position intermédiaire. Il a été chargé de faire le lien entre les habitants et les chargés de projet, parce qu'il s'occupe déjà de la maintenance, et parce qu'il est même résident. Il est concerné par le processus. Et donc ça va être de bricolage en bricolage. En passant dans son allée, il va capter les bruits de couloir, les inquiétudes qui sont liées au retard du programme, il va rassurer les gens sur le déménagement, tenter de donner une figure familière au processus qui à l'époque, au moment où on faisait la recherche, ne faisait que se préfigurer. Et il va ressaisir toute cette espèce de micro-politique là, qui concerne l'éco-rénovation et qu'il arrive à resituer sur le plan des affects de voisinage, les jeux de sensibilité entre les différents étages de la cité, etc. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est qu'une partie de son travail, ça va être d'orienter les gens vers ce qu'il appelle la petite dame de l'éco-rénovation, si je me souviens son nom, c'est Yuri, et qui, elle, a fait un peu le chemin inverse. Elle, c'est une chargée de mission qui est venue pour assurer
le bailleur de grandeur habitat.
Et qui, parce qu'il y a des permanences, parce qu'elle a mis en place un appartement témoin, finit par quasiment trouver une modalité elle-même d'habiter la cité. En tout cas, de déployer tout un régime de familiarité qui va, de manière assez saisissante pour nous, même quasiment faire pivoter le projet
En fait, elle est chargée de mission depuis 2 ans. Elle passe ses journées dans son bureau qui est au bas de la cité Perrache. Les habitants, comme on l'a un peu dit, sont opposés au projet pendant tout le temps. Qui précède le chantier. Et en fait, elle, d'être restée, elle passe ses journées entières à entendre les plaintes des habitants. Et en fait, au moment où ils finissent l'appartement témoin,
Elle se retrouve en fait à faire les déménagements parce que là, il y a une petite vieille qui passe et qui a besoin d'aide pour monter ses affaires. Mm-hmm. Donc elle se retrouve quand même vraiment prise directe avec tous les gens qu'elle côtoie.
Et elle finit par obtenir que les aménageurs, les concepteurs viennent au moment de l'inauguration de l'appartement témoin. Et là, retournement de situation, les aménageurs acceptent toutes les petites modifications d'usage dans tel appartement, on va laisser les meubles à tel endroit, donc on ne va pas toucher à l'isolation. Donc de faire du sur-mesure, là où en fait c'était vraiment une intervention de manière globale sur l'ensemble de la cité. Donc c'est par cette présence en fait quotidienne qu'elle réussit à faire retourner un peu le truc. Et même nous, ça nous surprend, puisque nous, c'est vraiment à la toute fin, au moment où on rédige le rapport, et on est obligé d'intégrer ça d'ailleurs dans tout le truc, parce que finalement, ils intègrent les petites plaintes en fait.
Donc ça c'était pour les figures, troisième surprise, l'expérience de l'habité, elle est également médiée par des formes collectives.
Bon, on va essayer de plus en douter, mais...
Là, je vais aller super vite. Qu'est-ce qu'on nous dit ?
On est un peu long. Hein.
Disons que si on veut terminer à 12h30, débat compris...
Ouais. Ah, bah, sinon,
un quart d'heure.
Sinon, on parlera...
Non, non, c'est vous qui voyez...
Parce que sinon on n'a pas de conclusion, c'est plus ridicule.
Comme vous voulez.
Simplement savoir que.
Non, parce que sinon on peut aussi faire passer les éléments de conclusion qui rejoignent aussi les choses qui ont été présentées en introduction sur la problématisation de la vie des habitants.
Oui, puis il faut déjà faire de la discussion, de toute façon, ça va faire vie. Il faut simplement que Martin ait le temps de vous poser quelques questions après.
Et
que
vous sortiez, toi, tu finis, du coup, là, on donne des éléments de terrain et on garde plutôt les éléments de conclusion pour la discussion. Et voilà.
Non, je ne vais pas vous mettre la pression
non plus. Non, non, pas du tout. Non,
ma pression. Donc, des médiations collectives. ça se joue sur des arènes publiques ou infrapubliques qui sont plus ou moins instituées, type conseil de quartier, association d'habitants en lutte ou non d'ailleurs, comité d'intérêt locaux, syndicat de copropriété, etc. avec tout un travail de, d'authentification, de confrontation, d'expertise technique, et on va dire aussi de socialisation de ces fameux argumentaires. C'est-à-dire qu'au début, ça nous a vraiment surpris de trouver des gens qui nous servaient vraiment les mêmes figures argumentatives, et après on a compris que c'était lié au fait que cette fameuse communauté d'expérience s'était constituée, et notamment au travers de ces espaces.
Les dysfonctionnements.
Oui, pour les dysfonctionnements. Et donc, on s'est trouvé confronté à ce qui nous semblait être des espèces de corps intermédiaires, l'intermédiaire entre l'expérience subjective des habitants et à la fois les logiques et les instances de gouvernementalité qui vont piloter le projet Confluence, intermédiaire entre le registre de l'intime ou le plan des usages concrets avec des modes de problématisation plus ou moins de portée, et surtout des modalités d'action concertées pour remédier aux différentes difficultés là, qui sont soulevées par les dynamiques de transformation des positions de la vie. C'est aussi la socialisation des connaissances sur le quartier, la vie durable, mais c'est aussi sur le travail de reprise et de remédiation finalement. Et c'est en partie à ce niveau que va jouer ce que nous on a appelé des adaptations secondaires, c'est-à-dire en gros, il y a un projet conçu, des aménageurs, ok, comment on aménage les aménagements pour qu'en fait ce soit jouable. Voilà, instance nodale et décisive pour ressaisir, comment faites-vous, l'habitabilité. Et si on reprend nous un peu notre métaphore techniciste, là, comment on adapte le prototype aux usages concrets. Donc, comme il faut aller un peu vite, puis en fait c'est déjà prévu, on va laisser de côté la forme collective d'habitants en lutte contre, parce que, en tout cas pour nous, c'est un truc qu'on a déjà beaucoup fait, donc ça ne nous amusait pas de le refaire. Et pour aller plutôt sur un avatar bien plus ordinaire des médiations collectives dans l'expérience de la cité, donc c'est le conseil syndical. Qui présente déjà l'intérêt d'être une forme très bien instituée, très bien équipée, c'est-à-dire que ça produit du compte-rendu, ça produit de toutes sortes, et ça donne accès en plus à un mix d'éléments techniques, de suivi de procédures juridiques, de formules politiques, de la définition de la communauté au sein de l'ISO. Ça concerne une de ces résidences qui assure la DARS des confluences. Donc il faut imaginer un îlot qui est en plus relativement sécurisé, donc d'une manière ou d'une autre, il y a des accès qui ne sont pas délimités, avec les propriétaires, les copropriétaires devant, les locataires, notamment HLM derrière, tout ça est bien organisé. Et il s'agit quand même de définir un espèce de vivre ensemble, notamment à travers cette institution-là. Ce qui va être donc pour les copropriétaires, mais qui sont également des voisins, des cohabitants d'un immeuble. Ce qui va être vraiment frappant, c'est que chaque incident ou dysfonctionnement va activer un travail inlassable de reprise et de remédiation, avec un côté élever une digue face à l'océan. Parce que ça revient tout le temps, quoi. Il y a toujours des rats finissent toujours par passer, des jeunes finissent toujours par venir fumer du hashish dans la cour intérieure, sachant que c'est vraiment le continuum qui est proposé, c'est celui-là, quoi. Les gens continuent de ne pas mettre les bons emballages dans les bonnes poubelles, on ne s'en sort pas. On continue d'avoir des infiltrations d'eau, on continue d'être en procès pour cette histoire. Et donc on voit que ce travail va notamment consister à faire communiquer deux dimensions spécifiques. D'abord, une espèce d'arène infrapublique de représentation et d'institution de la communauté, notamment avec tout un travail de remontée des plaintes, et donc de délégation de ce qu'est l'expérience des gens dans ces immeubles, en tant que locataire, en tant que propriétaire, en tant que locataire plutôt bailleur social, etc. Et donc voilà, il s'agit de remettre toute cette expérience-là de l'habiter en présence d'un côté, et puis de le mettre en lien avec le plan des acteurs et intervenants techniques qui pratiquement vont faire tenir les installations, les fournisseurs, les experts, les assureurs, les entreprises. Ce qui donne lieu à un travail de réalignement entre ces dimensions qui se fait à des moments, par exemple, très concrètement, quand il y a une visite, visite avec le dératiseur, donc on suit le dératiseur, il y a deux responsables du conseil syndical qui le suivent pas à pas, qui lui font des commentaires sur ce qu'il fait, donc il s'énerve un petit peu, il dit non, j'ai trouvé mes pièces. Bon. Et là, petit à petit, on voit que le travail de réalignement va se faire à travers ces opérations. Alors quand il s'agit de repasser à un endroit où, je sais pas quoi, on a dit que c'était glissant, c'est une patinoire l'hiver, regardez comment ça fait que ça stagne. Enfin bon, les choses elles sont prises vraiment à ce niveau. Donc travail inlassable d'institution du commun, au travers du mouvement même de l'entretien quotidien et concret des espaces. Et c'est là qu'on voit qu'on ne peut pas du tout distinguer une expérience pure de la cité. Travail en fait de mise en forme de l'urbanité, mais qui se fait également sous ces aspects techniques et qui donc va d'emblée emboîter des échelles, parce que la question de la stagnation de l'eau ou alors des intrusions à cet endroit, en fait, ça brouille complètement la question de savoir qu'est-ce qui serait justement micro-sociologique et qu'est-ce qui serait les politiques de la ville. En tout cas, c'est pas comme ça que ça se passe dans un conseil syndical. En plus, avec un suivi de travail dans le temps qui est très très intéressant. L'établissement de véritables sagas avec des rebondissements où surgissent de nouveaux acteurs, des aléas imprévus. Tout ça fait partie du travail de réparation. Déjà, on n'est plus dans une pure déprise vis-à-vis de l'environnement technique, puisqu'on commence déjà à raconter une histoire où, normalement, il y a une remédiation qui va être à l'œuvre, notamment avec le travail du droit aussi, qui est vraiment un truc très intéressant dans le genre d'instance. Les sagas, on a parlé des infiltrations, les problèmes de la sécurisation des espaces, ça, c'est tout un poème, avec notamment l'installation de ce qu'ils appellent les vigiques, vous voyez, les systèmes de gestion des entrées en fonction des codes, et ça crée un champ d'application pour l'espèce de micro-gouvernementalité que doit prendre en charge un conseil syndical qui est vraiment très intéressant. Donc, je sais pas quoi, des histoires de store, de bonne couleur ou pas de bonne couleur, problèmes des encombrants. Mais enfin, toute de la gestion des accès, ça va revenir tout le temps. Donc, en tout cas, ça permet vraiment de spécifier, on va dire, une micro-politique de la cité, et qui, je disais, implique tout un emboîtement d'échelle qui va jusqu'à poser la question vraiment de la micro-gouvernementalité, mais pas sous l'angle d'une pure déclinaison de ce que serait la grande gouvernementalité et comment ça s'applique, parce que quand il parle d'îlots, il y a quelque chose comme ça. Il y a des moments, c'est un peu comme s'il y avait une république, une micro-république quelque part en Océanie qui, malgré tout, arrive à avoir un siège à l'ONU. La question des stores, par exemple, la couleur des stores rouge ou bleu, ça faisait qu'il y avait un affrontement entre la souveraineté de cette copropriété et le centre commercial et ses grandes marques d'en face. Et il s'agissait de défendre comme ça une...
Les codes couleurs.
Vous voyez ce que c'est, le problème des codes couleurs et un règlement de copropriété qui indiquait que les stores devaient être bleus, sauf que telle enseigne mondialisée a des stores de couleur rouge, mais il s'agit de les faire plier et ça va être fait. Enfin, c'est donc là où on voit que ça joue pas du tout d'une manière qu'on pourrait dire simplement d'application en petit de ce qui est censé être décidé à un niveau plus large. Et il s'agit d'aller analyser ce que c'est que le paradigme de la sécurité en termes quel bien ou je sais pas quoi, pareil, on va en reparler longuement, mais c'est assez incroyable. Quoi. On arrive à avoir une lecture de ce que c'est qu'une espèce de diagramme de gouvernement à partir de cette question des vigiques et de tout ce qui doit circuler ou pas circuler, depuis les rats jusqu'aux infiltrations, jusqu'aux fameux jeunes qui, machin, c'est de réussir à lire les structures paranoïaques au sein de ce truc, c'est vraiment un terrain privilégié. On va en parler longuement, mais là, je vais m'arrêter. Donc on ne comprend plus pas.
Non, Mandine disait que oui. Non, la conclusion qu'on la prenait en charge peut-être dans la discussion.
Ouais. Ouais. Ça soit lisible quand même. C'est-à-dire que ça serait bien quand même que vos conclusions soient bien lisibles par tout le monde. Peut-être allez-y.
Allez.
De toute façon, je peux juste énoncer les grands points de la conclusion, puisque ça revenait sur le fait que finalement la démarche de l'étude, c'est de resymétriser la fabrique de la ville durable, de considérer en nouvelle répartition des capacités, c'est-à-dire que les aménageurs n'ont pas le monopole des aménagements. Les concepteurs d'éco-cités n'ont pas le monopole de l'écologie. Les experts, y compris en sciences sociales, n'ont pas le monopole de la critique ou de la théorie sur le fait urbain. Et donc, l'enjeu, c'était, dans la conclusion, de tirer un peu les conséquences théoriques et pratiques des leçons d'écologie que nous font nos interlocuteurs. Donc, un peu les trois grands points, c'était... habiter, finalement, c'est faire proliférer des médiations. Donc ça, c'est ce qui a été dit un peu tout au long de l'exposé.
C'était aussi une réponse à la littérature, Ludovic l'a un peu évoqué, mais du hiatus entre les techniques, les usagers, ou de l'impossibilité entre environnement technique, de l'impossible relation entre les usagers et les techniques. Et donc, nous, on a plutôt constaté la prolifération de médiation.
Qui font que les habitants prennent finalement à leur charge de faire ce passage-là en fait en permanence et de réconcilier le hiatus entre les deux, entre les aménagements et les usages que eux font, et que ça ils le prennent à leur charge en permanence pour rendre habitable justement la ville qui en fait telle qu'elle est livrée, elle l'est pas. Donc en fait pour la rendre habitable, ils ont justement à faire toutes ces médiations. Donc elle est prise en charge par les figures concrètes telles que les anges de la médiation, mais finalement par tout un tas d'opérations qui sont un peu celles qui ont été décrites par Yanis.
On parlait de tous les aménagements secondaires, on aurait pu faire tout, presque structurer l'exposé autour des aménagements qu'on a appelés secondaires, faire toutes les espèces d'inventivités que les gens qui... pour pouvoir habiter un logement où, par exemple, le vent s'enivre systématiquement, par exemple. Pour partie de ces médiations aussi.
Enfin, voilà, c'est tout ce travail de reprise, de réajustement quotidien que nous, on a pu justement enregistrer, plus que cette espèce de grande séparation entre des choses qui seraient irréconciliables. Après, le deuxième point qui est justement important, c'est un peu celui qu'on s'est développé en conclusion, c'est le fait que habiter, c'est aussi élaborer des théories critiques et des systèmes d'explication, puisque en fait, c'est ce que disait Yanis sur le fait que c'est pas que ce qui se joue au ras de la pratique, en fait, ça met en rapport des choses qui sont d'échelle très variable et que c'est dire que finalement le premier point, c'est qu'il y a une symétrie entre habitants et aménageurs, puisque les aménageurs n'ont pas le monopole des aménagements, mais il y a aussi une seconde symétrie qui serait là entre chercheurs et habitants, puisque les habitants ont bien cette capacité à élaborer des théories critiques. Donc par exemple, quand ils dénoncent le niveau d'abstraction des aménagements et des dispositifs technologiques par rapport à leur mode d'existence, à leur manière d'habiter, mais aussi, finalement, quand ils proposent des analyses, des critiques, des systèmes d'explication pour les dysfonctionnements, mais également quand... le fait que finalement les théories des dysfonctionnements, elles se branchent sur une analyse un peu plus très profonde de la fragilité de la ville durable, la grosse machine à laquelle ils ont affaire, par laquelle ils font valoir justement leur capacité d'explication et de mise en cause. Donc ils remontent au plus loin les réseaux qui rendent cette machine en apparence si robuste, pour justement en révéler la vulnérabilité. Donc en fait, toutes ces analyses-là, elles sont justement à l'œuvre en même temps qu'on décrit les choses les plus triviales. Enfin, y a une espèce de chaîne d'explication qui est déployée un peu en permanence dans tous les discours en fait les plus que nous on a recueillis. Et puis le troisième point, mais je ne développe pas plus, hein, c'était justement habiter, c'est problématiser. Donc
là, c'est la différence entre habiter et s'adapter, ce qu'on disait au tout départ. Et habiter, la grande différence entre habiter et s'adapter, c'est on a utilisé Simondon un peu tout le long pour faire ce travail-là, notamment pour comprendre l'agencement entre un environnement technique et puis un environnement social, humain. Et en fait, il nous est apparu à la fin que ce qui marchait pas dans la vie durable, c'est qu'on considérait l'intelligence des habitants finalement comme on considère une intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on considère que les habitants, donc à la manière dont Simondon fait la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence des machines, il dit les humains sont les témoins des problèmes des machines, parce que les machines ne sont pas capables de réformer elles-mêmes leur propre forme. C'est pour ça qu'une machine a toujours besoin d'un programmateur pour pouvoir réformer ses propres formes. Or, ce qui fait le propre de l'humain, presque on pourrait l'étendre à tous les êtres vivants, c'est d'être capable de, je crois qu'il l'étend à tous les êtres vivants, c'est d'être capable de refonder ses propres formes pour pouvoir faire face à une situation problématique. Et donc, il y a une très belle phrase, je ne sais plus la phrase, où il dit, c'est la capacité à sauter par-dessus.
Résoudre un problème, c'est pouvoir l'enjamber, c'est pouvoir opérer une refonte des formes qui sont les données mêmes du problème.
Ouais. Et donc, voilà, du coup, nous, on utilisait comme ça cette manière qu'avait Simondon de conceptualiser l'intelligence humaine, en fait, par rapport à celle des machines, pour dire, mais en fait, on se trompe, les concepteurs, la version téléologique dont parlait Ludovic, c'est une version qui considère une intelligence, les habitants comme une intelligence de machine, donc, à qui on va donner des inputs pour avoir des outputs, quoi. On va donner un certain nombre d'indications pour qu'ils puissent agir différemment. Mais absolument pas, on ne met jamais en capacité les habitants de reformuler l'ensemble des problèmes et de formuler des problèmes qui vont nous intéresser à nous, qui vont intéresser les chercheurs, qui vont intéresser les aménageurs. Et c'était pour dire aussi, mais finalement, c'est les habitants qui concrétisent, là toujours dans le vocabulaire de Simondon, qui rendent concret cette ville durable. Finalement, qui est-ce qui la rend efficace? Là, c'est à la Confluence, c'est des gens comme conseil de copropriété, c'est le conseil d'intérêt local, en fait, c'est toutes ces espèces d'instances qui vont rendre possible le fait qu'ils vont faire appel à tel sous-traitant et toi reviens parce que regarde, en fait, t'as mal conçu le truc. Ah non, mais attendez, toi. Et en fait, c'est bien les habitants qui rendent non seulement habitable le quartier, mais aussi qui finalisent la concrétisation des environnements techniques. Quoi.
Merci. Avant de passer la parole à Martin, je précise que le rapport que vous avez rendu, il y a trois documents en fait qui sont disponibles sur le site du réseau ACDD. Donc vous allez sur en haut, il y a veille scientifique, il y a plusieurs rubriques, la rubrique colloque, la rubrique offre d'emploi, je sais pas quoi, et la rubrique publication. Et dans cette rubrique publication, il y a le rapport du PRAC. Il y a trois, il y a un dossier, enfin un fichier, c'est le résumé, un fichier, c'est la synthèse, un fichier, c'est le rapport en outil. Voilà, pour retrouver beaucoup de choses de ce qui ont été dites de manière plus précise.